moi, on échange un regard horrifié. Tu vois la même chose que moi ? Me demande Terry. Oui, c'est Bill. Mais c'est impossible. Dans le dernier tome, on est tombé sur son squelette dans le labyrinthe de la mort. Tu te souviens ? Je chuchote tout bas. Bien sûr que je me souviens. Ça veut dire que ça ne peut pas être Bill en bas, mais... un zombie ! Un colis pour vous ! Crie le zombie. On dira vraiment Bill, me fait remarquer Terry. Ça fait partie de son plan diabolique. Quel plan diabolique ? Livrer le colis pour nous manger la cervelle. Tu ne connais vraiment rien aux zombies. Andy, crie le zombie, Terry. Y a quelqu'un ? Il connaît nos prénoms, s'exclame Terry. C'est forcément Bill. Oui, Bill, le zombie. Oh oh, les deux rigolos, dit le zombie. Je vous entends là-haut. J'ai un colis pour vous. Je tente une ruse. Vous pouvez le laisser sur le pas de la porte ? On est vraiment occupé là. Le zombie répond. J'ai bien peur que non. C'est un paquet vraiment, vraiment spécial. Il me faut une signature. On a besoin de cet interrupteur, me souffle Terry. Je ne suis pas un zombie, vous savez, nous dit le zombie. Tu as entendu, s'écrie Terry. Ce n'est pas un zombie. Les zombies disent tous ça, lui fais-je remarquer. On ne peut pas prendre le risque. Bon, s'impatiente Bill. Si vous ne descendez pas, c'est moi qui monte. Je m'écris. Oh non, une attaque de zombies! Vite, Terry, sors le lance-flamme! Quel lance-flamme? Celui que tu étais censé fabriquer pour nous protéger des attaques de zombies. Ah, celui-là? Je ne l'ai pas fini. J'étais trop occupé à travailler sur le 39e étage. Inutile, dit Bill, en grimpant jusqu'à nous. Je ne suis pas un zombie, je suis bien vivant. On te croyait mort, lui dit Terry. Bill sourit. C'est aussi ce que j'ai cru quand j'ai lu la cabane à 26 étages et que j'ai vu ce squelette avec mon képi de facteur. Ça m'a d'abord rendu assez triste. Je sais ce que je me rends compte que si j'étais triste, c'était sans doute que j'étais encore vivant. Et donc, que ça ne pouvait pas être moi.
Luna, je vais lire un extrait du livre « Vent de panique à Raxour ». Convoquées par Chacal, les 7 équipes se réunirent dans le gymnase. Elles trouvèrent l'enseignant occupé à faire son entraînement de l'après-midi, sans pompe sur une seule patte. 98, 99, 100. Dès que tous furent installés, Chacal remit à chacun une carte de l'île, puis il se lança dans les explications. Les 6 équipes seront conduites dans 6 endroits différents de la forêt des faucons. Chacune sera à bonne distance des autres. Vous ne devrez pas essayer de vous contacter, compris ? Et il leur fit voir le sac à dos qu'il avait préparé. Chaque équipe aura un kit comme celui-ci, contenant l'équipement de base. Vous n'emporterez rien d'autre. Vous devrez vous débrouiller pour construire un abri, vous procurer à manger et à boire, bref. Vous devrez faire face à toutes les nécessités et à tous les imprévus. Et si quelque chose va de travers ? Si on se trouve en danger ? Demanda Tanja préoccupée. Chacal sortit de la poche externe du sac à dos un petit appareil noir. Dans le kit, il y a un émetteur de détresse. Si vous appuyez sur le bouton rouge, des secours partiront immédiatement à votre recherche, de jour comme de nuit. Puis il ajouta, que ce soit bien clair, si l'un de vous appuie sur le bouton, les deux membres de son équipe sont rayés de l'épreuve. Vanilla bondit, comme piquée par une aiguille. Ce n'est pas juste du tout. On ne peut pas perdre simplement parce qu'on a le malheur de faire équipe avec un mollasson. Elle lança un regard noir à son pauvre coéquipier, Sébastien, qui baissa les yeux affligé. Chacal posa une main sur l'épaule de Sébastien, puis il se tourna vers Vanilla et répondit. Tu pars du mauvais pied, petite mozzarella. Tu seras surprise de constater le nombre de choses qu'on peut apprendre des autres et la joie qu'on éprouve à partager un projet avec un bon ami. Sébastien, soulagé, adressa un grand sourire au professeur pendant que Vanilla couvrait de sa main un léger bâillement. Chacal se tourna à nouveau vers le groupe. Mettez-vous bien ça dans la tête, tous. Le but de l'épreuve est d'apprendre à collaborer dans les moments difficiles. C'est pourquoi c'est une équipe et non pas une personne qui l'emportera. Combien de temps durera l'épreuve ? Interrogea Pamela. De samedi à l'aube à dimanche au coucher du soleil, répondit Chacal. Puis il retira lentement ses lunettes miroir et fixa les jeunes gens l'un après l'autre droit dans les yeux. À la fin, c'est moi qui désignerai la meilleure équipe et mon jugement sera sans appel.
L'histoire d'Hélène Keller. À la mémoire de maîtresse qui entraîna une petite fille hors des ténèbres et lui donna le monde. Hélène Keller. Chapitre 1er. Le silence et l'obscurité. Par une belle soirée du mois de septembre 1886, la famille Keller était réunie au salon. Le capitaine Keller lisait distraitement son journal. Il finit par le poser à côté de lui et regarda par-dessus ses lunettes sa fille aînée, Hélène, qui pelotonnait dans un fauteuil, serrait contre son cœur une grande poupée de chiffon. « Hélène a maintenant 6 ans, » dit le capitaine. Son esprit, en admettant qu'elle en ait un, est enfermé dans une prison. Elle ne peut pas en sortir et personne ne peut lui ouvrir la porte pour l'aider. La clé a été perdue. Personne ne pourra la retrouver. Madame Keller, qui était en train de coudre, releva la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes. La tante d'Hélène se mit en colère.
« Arthur, vous n'y connaissez rien !» Moi, je vous dis qu'Hélène est beaucoup plus intelligente que tous les Keller réunis.
Hélène est peut-être un génie, dit le capitaine tristement. Mais à quoi cela lui servira-t-il? Personne n'en saura jamais rien. Elle n'en profitera pas et n'en fera profiter personne. Les paroles de son père ne pouvaient pas blesser Hélène. Elle ne les entendait pas. Frappée à 2 ans par une congestion cérébrale, elle était restée sourde, muette et aveugle. Il n'y avait, croyaient ses parents, aucun moyen de communiquer avec elle. Elle était murée pour toujours dans le silence et l'obscurité. Chapitre 2. L'étrangère. Le 3 mars 1887 devait marquer une étape décisive dans la vie d'Hélène Keller. Miss Anne Sullivan, qui avait juste 20 ans, allait devenir l'institutrice d'Hélène. Au bord du puits, le jardinier était précisément en train de tirer de l'eau. Anne conduisait Hélène auprès de lui et remit encore une fois la fameuse tasse dans les mains de l'enfant. Puis, elle fit couler un peu de l'eau du seau dedans. Le premier réflexe d'Hélène, furieuse, fut de jeter la tasse. Mais elle aimait la sensation de la fraîcheur qui régnait au bord du puits, et elle aimait le froid de l'eau. Elle s'amusait souvent à faire couler de l'eau sur sa main. Anne prit alors cette main et épela le mot E-A-O. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Brusquement, Hélène laissa tomber la tasse. Elle demeura absolument immobile, rigide, respirant à peine. Elle savait, elle avait compris, elle avait enfin compris. Une sorte de révélation confuse, puis très claire, lui était venue soudain. Une pensée nouvelle s'était mise à tourner dans sa tête. E-A-U ! Oh ! Cette chose merveilleusement fraîche, cette chose amie, c'était oh !